Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Simon Bernard, le cofondateur de Plastic Odyssée, la start-up qui œuvre à dépolluer nos océans. Alors, c'est vague, c'est normal, c'est parce que je veux que tu m'expliques précisément ce que fait Plastic Odyssée, parce que je pense que d'ailleurs, vous avez étoffé un petit peu au fur et à mesure votre offre, les possibilités justement de travailler avec vous. Mais moi, j'aime bien cette baseline de dépolluer les océans.
C'est sûr que c'est la finalité, on est parti de là, puisqu'on est... Moi, je suis officier de marine marchande à l'origine, donc je naviguais sur des bateaux de commerce. Et c'est de l'océan, c'est de ma passion de l'océan qui est née Plastic Odyssée. Mais effectivement, c'est pas en naviguant et en regardant la surface de l'eau que je me suis dit « Ah, il y a un problème ». Parce que le plastique, il coule et finalement, cette pollution, elle est invisible, on la voit pas.
Il se dissout quand tu dis qu'il coule. Non, il tombe.
Alors, il coule en grande partie, on estime que 95% est vraiment au fond de l'eau. Et le reste dégradé en microparticules. Mais c'est assez difficile parce que c'est tellement fin qu'on peut pas quantifier, on peut pas mesurer la quantité de microparticules qu'il y a partout.
Je suis déjà flippée déjà avec au début. Donc, alors, comment tu t'es dit, comment tu as pris conscience? Parce que je pense que ça se voit, c'est-à-dire, on en parlait avec Sabine Roux de Bézieux, on ne voit pas finalement la pollution dans nos océans.
Non, c'est ça. On la voit surtout sur les côtes. Et surtout sur les côtes des pays
enfin,
les plus pauvres.
Pas l'été. Oui, parce que et puis même l'été, c'est peu ça. Ramassé, etc. Mais je pense que c'est les gens qui vivent toute l'année, non?
Moi, c'est en faisant escale à Dakar. J'étais sur une expédition avec Corentin de Châtel-Perron. On travaillait sur les low-tech. Et on a fait escale à Dakar, et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a du plastique partout qui se déverse dans l'océan, donc il faut faire quelque chose. Il y avait tellement de plastique qu'il y avait un ponton qui avait été construit, on ne pouvait pas accéder à la côte, à la plage directement.
Et c'était en quelle année, ça?
C'était en 2016, c'était au printemps 2016.
Ok, parce qu'apparemment, en plus en 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans.
C'est vrai que ça, c'est un chiffre qu'on entend beaucoup, qui permet de sensibiliser. Ouais. C'est toujours difficile
de quantifier.
Mais ce qu'on sait, c'est que la production augmente, la quantité de déchets augmente.
Et qu'en plus, on tue notre biodiversité, donc finalement, l'un dans l'autre. Bon, ça. Et alors, d'officine de marine marchande, c'est bien ça, hein?
C'est ça, ouais.
Parce que vous êtes trois cofondateurs, comment vous avez eu l'idée d'unir vos talents et vos passions? Puisque je pense que les deux autres aussi sont passionnés d'océan, non?
Oui, c'est ça. En fait, Alex, qui est un de mes associés, était officier de marine marchande aussi, et Bob est ingénieur art et métier, passionné plutôt par l'entrepreneuriat social, donc on se complétait bien. Et c'est vraiment, ouais, on s'est rencontrés et on avait envie d'agir, on avait envie de faire quelque chose. Et moi, c'est ce déclic à Dakar où je me suis dit, bon, il y a du plastique, mais il y a aussi énormément d'ingéniosité. À Dakar, tu peux recycler des canettes d'alu pour en faire des casseroles quasiment à chaque coin de rue. Il y a des gens qui sont capables, avec des moules en sable très basiques, de refaire fondre des canettes et d'en faire un nouvel objet.
Depuis 2016 en plus.
Depuis, à mon avis,
même avant,
plus longtemps que
depuis
ça.
Toujours peut-être.
C'est vraiment des techniques, il y a beaucoup d'ingéniosité. Finalement, c'est dans les pays ou dans les endroits, dans les environnements qui sont contraints, où il y a peu de ressources, peu de richesses, qu'on innove le plus.
Oui, l'économie circulaire en fait, on parle d'économie dans l'économie circulaire, donc eux, ça leur permet de ne pas perdre leurs ressources.
Exactement. Et donc je me suis dit, si on fait ça pour l'alu, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour le plastique? On pourrait transformer cette matière qui finalement a de la valeur. C'est une matière qui est très complexe, c'est pour ça qu'on l'utilise partout, c'est qu'elle a des super caractéristiques, mais on l'utilise mal. Et donc, il faut déjà traiter tous les déchets qui sont là, qui ont déjà été produits, parce qu'on en a produit 6 milliards de tonnes, et il en reste encore 5 milliards de tonnes. Donc finalement, on a encore un héritage énorme réparti un peu partout sur les terres, sur la planète, et à côté, réduire la consommation, la production, parce que c'est exponentiel. Donc, c'est un peu ces deux actions, réduire la consommation à la source, mais aussi traiter ces montagnes de déchets qu'on peut voir au Liban, au Sénégal et autres.
Et puis, en fait, ils sont partout. C'est juste qu'elles sont très visibles là-bas. Et alors, comment vous avez concrètement procédé?
Et donc, nous, on s'est dit... Enfin, on aime bien l'axe solution. Les plaidoyers, la sensibilisation pour dire il y a une pollution, c'est mal, etc. Nous, on est assez cartésiens, on est des ingénieurs, on aime voir des choses concrètes.
Surtout qu'aujourd'hui, la sensibilisation, ça ne suffit pas, hein, il faut les solutions maintenant. Hein.
C'est ça. Et donc, nous, c'est ça qui nous passionne. On s'est dit, il faut qu'on arrive à développer des technologies les plus simples possibles pour arriver à transformer un truc qui n'a pas de valeur, donc un déchet plastique qui ne vaut rien, pour en faire un objet directement, un produit qui va se vendre, qui va répondre à un besoin localement. Que ça soit des tubes pour les canalisations d'eau usée. On sait que l'évacuation des eaux usées, c'est un gros problème dans beaucoup de pays. Des tuiles pour les toits des maisons, des matériaux de construction. Mais des produits, finalement, en faire des produits qui vont se vendre et donc créer une économie locale. C'est ça la stratégie.
Donc locale mondiale.
Plutôt à une échelle, quand je dis locale, c'est vraiment dans les pays qui nous intéressent, puisqu'aujourd'hui, on considère que 80% de la pollution plastique, elle provient d'une vingtaine, trentaine de pays dans le monde, qui sont que des pays à bas et moyen revenu. Pourquoi ? Parce que c'est des pays où on consomme de plus en plus, la démographie explose, mais il n'y a pas d'infrastructure pour gérer les déchets. Et donc, on produit beaucoup de déchets. En plus de ça, les pays riches comme les US ou l'Europe exportent des déchets dans ces pays-là. Donc, on se retrouve dans des situations en Asie du Sud-Est ou en Afrique où
de pays poubelles.
Il y a plein de déchets, plein de poubelles et aucune infrastructure pour gérer les déchets. Donc, forcément, ça termine dans l'océan à un débit de 20 tonnes par minute. Donc, c'est énorme.
C'est hallucinant. Mais il n'y avait pas déjà d'autres acteurs qui proposaient ça? Parce qu'on parle beaucoup de recyclage du plastique et là, de plus en plus, parce que d'ailleurs, même là, on cherche comment le recycler à l'infini. Vous, c'est vraiment, au-delà de le recycler, c'est le revaloriser. C'est ça, votre différence?
C'est vrai qu'après, les mots ne parlent pas forcément.
Ouais.
Quand nous, on parle de recyclage, ça ne veut pas dire du tout la même chose que quand on parle de recyclage en France. Ce n'est pas du tout les mêmes systèmes. On ne fait pas la même chose. On pourrait dire qu'on fait de l'upcycling. On transforme un déchet en un produit directement. Donc, on ne va pas refaire du granulé plastique pour aller refaire des packaging qui redeviendront des déchets et qui vont s'échouer. On fait des objets durables. Qui vont rester dans le temps et qui ne vont pas redevenir un déchet.
Concrètement, tu as des exemples?
Donc, par exemple, ce qui se fait beaucoup, c'est des matériaux de construction ou des tubes, comme je disais, des tuyaux de canalisation qui te permettent de répondre en plus à des problématiques locales.
Donc, en fait, c'est un peu le plastique à usage unique, pas unique, mais bon, limité, dirons-nous, qui va devenir un objet durable dans le monde dont on ne se sépare pas.
C'est ça. Exactement. Et alors, comme tu dis, ça se fait depuis des années et des années, mais soit ça se fait à une échelle très industrielle, high-tech, très chère, et donc pas du tout adaptée aux pays qui en ont besoin, donc en Afrique ou en Asie, ou à côté de ça, il y a de l'artisanat. Donc, il y a des gens qui, avec une marmite, un feu de bois, vont faire brûler des plastiques pour essayer d'en refaire des pavés.
C'est toxique, non ?
Ça, c'est super toxique,
ouais.
C'est pas performant, c'est pas souhaitable. Et donc, entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution avec un investissement faible, mais quand même industriel, semi-industriel.
Qui peut sécuriser aussi tout ça.
C'est ça, et avec des conditions de travail acceptables. Ça n'existe pas, ou alors c'est vraiment anecdotique. Tu arrives à trouver, on trouve sur YouTube des fabricants au fin fond de la Bulgarie qui ont des innovations assez géniales.
Et du coup, tu vas leur proposer de bosser avec toi?
Et ouais, exactement. Et on était en Bulgarie il n'y a pas longtemps pour rencontrer justement des gens qui font ça depuis 30 ans. Mais c'est des super ingénieurs bricoleurs, mais ils sont incapables derrière de produire en quantité ces machines et il en faut beaucoup. Donc nous, tout le challenge, ça va être de travailler avec eux, d'aller sourcer les meilleures innovations dans le monde et d'industrialiser tout ça pour qu'on puisse passer à l'échelle.
L'intelligence collective.
Exactement.
Donc, génial, mais alors je crois que tu me disais aussi, puisqu'on se connaît depuis un petit moment tous les deux, que tous les plastiques ne pouvaient pas se recycler de la même façon. C'est pas toi d'ailleurs qui m'as dit que le plastique noir était pas... Alors, je n'allais pas dire que ça n'existe pas, un recyclable, mais pas recyclable du tout.
Oui, j'ai dû te dire ça. En fait, le plastique noir, c'est surtout dans les pays riches où on a des trieurs optiques. Donc, des machines automatiques qui reconnaissent les différents types de plastique. Et ces machines-là, elles ne reconnaissent pas le noir parce qu'en fait, ça utilise des rayons infrarouges pour reconnaître la matière plastique et le noir absorbe l'infrarouge. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas recyclés. Pas parce que le noir ne peut pas être recyclé, mais juste parce que la machine de tri ne le reconnaît pas. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'on fait un tri plutôt manuel dans les pays qu'on cible. Et donc, mais il faut quand même trier. Il faut trier par grande catégorie. Alors, c'est moins précis. On a besoin d'être moins précis que quand on fait du recyclage en France. Mais il faut quand même un tri. Et ça, en fait, ça se fait assez bien. On arrive à former des opérateurs qui vont trier assez facilement.
Et est-ce qu'il reste des déchets quand même parfois ou pas ? Des choses que vous n'arrivez pas justement à recycler ?
Il reste des déchets, notamment ce qu'on appelle les multicouches, les plastiques complexes, en gros, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En général, donc il faut imaginer comme un sandwich avec
un feuilleté.
avec
plus gourmand.
Avec plein de plastique, même de matériaux différents. Il peut y avoir de l'aluminium dedans. Et donc ça, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas vraiment à quelle température ça va fondre.
Surtout
est-ce que
si
ça
tu
peut
construis des trucs après, on ne sait pas si ça va tenir très longtemps. Nous. Non, mais c'est une partie de votre activité, parce qu'au-delà de ça, je sais que vous faites beaucoup de programmes de sensibilisation, d'entre guillemets, pas de dépollution, mais vous avez un bateau, notamment.
Ouais. Alors, en fait,
vous connaît pour votre bateau, j'ai l'impression.
Tout le monde vous connaît pour le bateau. Et c'est bien, parce que c'est l'objectif aussi de ce bateau, c'est d'aller faire connaître Plastic Odyssey et les solutions qu'on propose. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que tout le monde pense qu'on dépollue l'océan, qu'on nettoie l'océan, ce qui n'est pas du tout le cas.
C'est bien de le rappeler.
Ce qui n'est pas le cas, pourquoi ? Parce que comme je le disais, il n'y a pas de plastique qui flotte à la surface.
Oui, mais en même temps, si vous arrivez à ne pas laisser le plastique aller dans les océans, vous dépolluez l'océan.
C'est ça, exactement.
Donc,
c'est un coup à deux bandes.
C'est ça.
C'est moins évident que se dire, on a un bateau, on prend un chalut et puis on va chaluter. Non, c'est pas...
Mais d'ailleurs, tu connais le gros bateau là, qui ramasse les... Comment il s'appelle cet énorme bateau qui ramasse les déchets dans... Alors, je ne sais pas si c'est dans les océans, mais qui, entre guillemets,
Ocean Cleanup.
Oui, exactement.
Ocean Cleanup, justement, c'est grâce à Boyonslat, finalement, qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une pollution plastique, on est tous sensibilisés parce que ça a fait un buzz mondial. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à ramasser, puisqu'il a fait des études scientifiques dans ce qu'on appelle le 7e continent de plastique, qui est une zone de concentration de microparticules, et on s'est rendu compte, grâce à ces recherches, qu'il n'y avait rien, en fait. Puisque si on ramasse la totalité de ce continent de déchets, on a la même quantité de plastique que ce qui se déverse tous les deux jours. Donc, ce n'est pas forcément le sujet, même si ça plaît
en
beaucoup.
En fait, c'est désintégré en microparticules. En fait, notre mer est un océan de plastique. Enfin, ce sont des océans de plastique, finalement. Et d'ailleurs, est-ce que nos poissons... Enfin, sont imprégnés de ces microparticules. En fait, finalement, maintenant, quand on consomme du poisson, je n'incite pas au véganisme, mais bon, quand même, est-ce que, du coup, on absorbe aussi des microparticules de plastique ?
C'est sûr, poisson et les crustacés, tout ce qui est filtreur, les moules, on connaît encore mal les répercussions que ça peut avoir sur la santé, même on peut se douter
encore
que c'est quand même pas terrible de manger du plastique.
Oui, c'est vrai qu'on
ne
sait pas, finalement.
On ne sait pas, mais il y a des dernières études qui montrent que ces microparticules, elles arrivent à traverser les barrières même du cerveau. Mmh. Et donc, on en retrouve un peu partout quand même. C'est ça qui...
En effet de plastique. Ouais. Moi qui cherchais à faire du botox. C'est déjà fait. Plus qu'à aller manger un peu de poisson.
Exactement.
Ah, mais l'enfer.
Non, c'est ça le problème. Et donc, c'est pas si simple. On ne peut pas juste dire on va ramasser du plastique dans l'océan. Mais par contre, si on arrive à fermer le robinet, à arrêter d'en mettre, l'écosystème va se reconstruire. C'est ça qui est formidable avec la nature. C'est qu'on le voit quand on fait une aire marine protégée. En quelques années, la vie reprend ses droits. Et on voit des poissons revenir, on voit de la biodiversité en masse. Donc, si on arrête de saccager l'océan, la vie va reprendre ses droits. Donc, c'est ça qu'on se dit. On se dit, si finalement, ces déchets qui sont par terre et qui terminent dans l'océan, ils sont ramassés parce qu'ils ont de la valeur... ils ne vont plus se retrouver par terre.
Le but, c'est quand même de tendre vers une sobriété aussi en matière d'utilisation du plastique. Et donc, on n'encourage pas non plus à surconsommer le plastique. Mais il y en a, en plus, c'est ce que tu disais très bien, il y en a déjà beaucoup. Donc, on a déjà pas mal à faire.
On a décidé de se séparer en deux équipes. Et donc, le slogan, c'est « Clean up the past and build the future ».
Génial.
Il y a l'équipe qui...
Et qui est dans le présent, d'ailleurs ? Personne n'est dans le présent ?
On est dans le présent, on avance, les deux équipes avancent dans le présent en se disant y a un héritage qu'il faut traiter, c'est ces 5 milliards de tonnes de déchets qui sont là. Avant qu'on arrive à créer un appel d'air, il va falloir y aller, parce que 5 milliards de tonnes, c'est beaucoup. Pour juste avoir un ordre d'idée, nous, les micro-usines qu'on développe, elles permettent de faire entre 200 et 1000 tonnes par an. de très bon. Donc, il va falloir en mettre beaucoup si on veut réussir à créer un appel d'air. Mais en parallèle de ça, Build the Future, on va dire que c'est une équipe qui travaille sur la réduction de la consommation par le changement de comportement d'usage. Donc, on ne travaille pas sur la technique, on travaille sur l'humain, le consommateur, avec des chercheurs en sciences sociales. Ça, je crois que c'est une première. On a une dizaine de chercheurs qui essayent de comprendre dans chaque pays où on va aller, pourquoi est-ce qu'on consomme du plastique finalement ? Est-ce que c'est culturel ? À quel besoin ça répond ? Et donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi avec des programmes pédagogiques auprès des enfants, du grand public, pour faire changer les modes de vie et de consommation.
Passer du plastique, c'est fantastique. Au plastique, c'est dramatique, en fait.
Ouais, après, c'est sûr qu'il faut bien faire attention aux usages qu'on en a, parce que parfois, on peut se dire, il faut absolument arrêter le plastique et puis on va remplacer ça par un usage qui est encore pire. Typiquement, les gobelets de café qui étaient en plastique, maintenant, c'est en carton, mais c'est quand même un carton qui est recouvert de plastique. Parce que le carton, c'est pas imperméable. Et donc là, on se retrouve avec un truc qui est plus du tout recyclable, qui même en termes de bilan carbone n'est pas terrible. Donc, c'est ça toute la complexité.
En fait, il faut calculer. Tout est une question de calcul aussi.
Tout est question d'écosystème aussi. C'est comme le carbone, quand on regarde ce qu'on appelle le tunnel carbone, là, c'est quand finalement tout le monde se concentre sur le carbone, le CO2, alors que c'est un tout, la perte de la biodiversité, les pollutions en tout genre. Si on ne regarde pas ces différents problèmes qu'on a environnementaux, on peut finalement choisir une solution qui va créer un problème ailleurs.
Surtout que c'est lié, puisque c'est la perte de la biodiversité qui fait que finalement on n'arrive plus à absorber le carbone.
Oui, exactement. C'est pour ça.
D'où les fonds marins, d'ailleurs.
C'est ça. C'est vraiment un écosystème qui est très complexe. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est parce qu'on a un cerveau, même plusieurs cerveaux humains. On n'est pas capable de comprendre. Avec beaucoup de plastique. On est incapable de comprendre tous les liens qu'il y a, la répercussion de la bouteille qu'on va mettre en termes de carbone ou de perte de biodiversité. C'est vraiment un écosystème complexe. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle et simple et qu'il faut avoir un peu d'humilité. Et nous, je crois qu'en tant que marin, c'est un peu ce qu'on nous apprend. Parce que quand on est sur un porte-conteneur de 400 mètres, qui est une grosse machine quand même au milieu d'une tempête, on se rend compte que ce n'est pas l'homme qui l'emporte et qu'on est quand même tout petit, même sur des grosses machines, et qu'il faut une certaine humilité face à la nature. Moi, ce que je dis souvent, on nous dit 2050, il faut la neutralité carbone.
2030, maintenant, il y en a qui essayent de...
2030, enfin, mais...
Tu sais que neutralité carbone n'a plus le droit d'utiliser ce terme. L'ADEME a dit que c'était du greenwashing, hein, parce qu'en fait, tu ne peux pas. Enfin, tu ne peux pas la quantifier,
c'est...
on en parlait là.
Mais justement, donc avec l'ADEME, les différents scénarios qu'il y a en se disant est-ce qu'il faut tendre vers de la sobriété ou est-ce que la technologie va nous sauver ? Et moi, je disais, en 28 ans, parce que c'est dans 28 ans, 2050, on ne va pas réussir à faire mieux que la nature dans toutes ces années, ces millions d'années. Donc, ce n'est pas en 28 ans qu'on va révolutionner et disrupter la nature au point de faire mieux qu'elle, en fait.
Et donc, justement, Build the Future, c'est un peu votre nouveau projet ou c'est déjà un petit peu ancré ?
Non, on a toujours eu cet axe de sensibilisation. C'est vrai qu'on nous connaît plus pour...
Le bateau
et les machines que ce bateau embarque. Parce que pourquoi
oui,
le bateau ?
C'est
que
aussi.
Le bateau, finalement, nous permet d'aller dans 30 pays, qui sont les 30 pays les plus touchés par la pollution plastique. On a fait les choses, on a été très cartésiens, on a pris les études scientifiques, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut avoir le plus gros impact ? Si on recycle un déchet sur deux dans 20 pays, on a traité 40% du problème. Donc, c'est assez simple, en fait. Mathématiquement, on peut réussir à savoir où est-ce qu'il faut mettre nos efforts. Et donc, on s'est dit, on va dans 30 pays et on va faire connaître les solutions, que ça soit pour recycler les plastiques, mais aussi on va sensibiliser pour réduire la consommation. Et c'est ça, l'expédition Plastique Odyssée, qui est la partie visible du projet, mais qui est que la porte d'entrée, finalement. Puisque derrière, c'est l'action terrain qui va rester. Donc, puisque le bateau, une fois qu'il est parti, on a des équipes qui vont aller aider des entrepreneurs locaux à installer des centres de recyclage, qui vont mettre en place des programmes pédagogiques dans les écoles et autres.
Oui, donc finalement, vous faites aussi travailler l'économie locale. Ça, c'est génial, surtout dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? C'est quoi tes projets, d'ailleurs, à venir ?
Alors, le grand... On va dire la grande date, là, c'est le départ de l'expédition qu'on attend depuis quand même quelques années.
Parce que Covid a empêché.
On a eu plein de problèmes, de galères, comme tout entrepreneur, finalement.
Sûr, bien sûr.
Et donc, on s'est retrouvé avec un peu de retard, mais là, ça y est, le bateau est bientôt sorti de chantier. On espère pouvoir partir en septembre, octobre. Et en parallèle de ça, ce qui est super, c'est qu'on a commencé à installer des centres de recyclage en Afrique. Donc, on n'a pas attendu que le bateau parte. Là, on travaille avec la Guinée, à Conakry, avec une entrepreneuse qui s'appelle Mariam, pour refaire des pavés pour les sols. Et on devrait, là, dans les mois qui viennent, installer une usine à Conakry. On travaille avec le Togo, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Ouganda. Donc ça, c'est déjà des choses très concrètes qu'on fait avant même que le bateau parte.
Et en plus, est-ce que tu vois aussi des constructions qui sont faites grâce à tes matériaux recyclés?
Alors ça, ça va être tout le... Ouais, c'est ce qu'on va voir très rapidement. Ça va être génial de voir que... et puis te faire travailler des gens. Là, Mariam, ça va être une dizaine de personnes qui vont pouvoir travailler. Et donc ça, c'est super. Et c'est incroyable de voir que même avant que le bateau soit parti, on a des gens quasiment toutes les semaines qui nous contactent. La semaine dernière, on avait quelqu'un du Nigeria qui, depuis 15 ans, recycle des bouteilles plastiques vraiment de manière assez artisanale et nous dit comment est-ce que vous pouvez m'aider à installer des machines et faire encore plus d'impact. Et donc, on se dit, quand le bateau va avoir passé 3 semaines dans le pays, on va crouler finalement sous les demandes et on va pouvoir aider encore plus d'entrepreneurs.
Donc, du coup, si vous nous écoutez dans ces pays-là et que vous recyclez aussi vous-même votre plastique ou que vous souhaitez d'ailleurs vous y mettre, faut encore harceler Simon, il a plein de demandes, mais il y en a toujours plus. Hein. Je pense que tu acceptes toujours plus de demandes.
C'est ça. Et puis là, on est en train de construire une sorte de communauté, l'Académie du recyclage, où on va inviter des recycleurs, donc des futurs entrepreneurs du recyclage, surtout des pays du Sud, à rejoindre cette communauté pour avoir accès à de la formation, à des outils, à de l'échange pour vraiment donner toutes les clés pour que ces projets réussissent.
Et si tu avais un message à passer à nos auditeurs pour conclure le podcast, qu'est-ce que tu dirais ?
Alors, je dirais que moi, souvent, on me dit « c'est génial ce que vous faites, c'est incroyable ». Et donc, parfois, j'ai le sentiment de me dire « les gens, finalement, sont satisfaits et attendent qu'on fasse nous-mêmes ». Mais on ne va pas pouvoir tout faire tout seul et... On n'est pas beaucoup, et même si on a une ambition qui est très grande, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Donc, il faut que chacun agisse à son échelle, que ça soit dans les entreprises, que ça soit à la maison, quand on va faire ses courses, et qu'on se dise qu'il y a des tas de solutions, mais ce n'est pas des solutions miracles, et il faut qu'on s'y mette tous si on veut vraiment réussir à régler ce problème qui est quand même colossal.
Chaque geste compte.
C'est ça.
Merci beaucoup, Simon.
Merci, Alice.
J'ai hâte de voir le bateau. Donc, tu nous as dit qu'on suive ça septembre-octobre, peut-être.
Septembre-octobre.
T'as pas de date, pas de pression, mais on sera connectés.
Tu seras invité, bien
ouais,
sûr.
Ouais, grave. Et du coup, vous pourrez suivre ça en direct sur mes réseaux. Merci beaucoup, Simon.
Merci, Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.